Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal, évidemment dans quelques secondes, toute l'info et la suite de notre 18-20 exceptionnel consacré à la figure toujours de Napoléon. Qui était-il vraiment ? Ses victoires, ses défaites, ses grandes œuvres et puis ses zones d'ombre également. Faut-il le célébrer ou le boycotter ? On va en parler avec nos invités dans le débat du Club des Idées avec notamment le descendant direct de Napoléon Ier, son arrière-arrière-petit-neveu Charles Bonaparte. D'abord toute l'info avec le journal Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Comment se peut-il qu'un homme soit capable de mettre son épouse à terre avec des coups de fusil et une fois à terre, de la brûler vive ? Non seulement de tuer, mais de tuer avec beaucoup de cruauté.
La barbarie à l'état pur ce matin à Mérignac, en Gironde. Une mère de famille de 31 ans brûlée vive par son ex-compagnon, un récidiviste des violences conjugales. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
Deux siècles jour pour jour après la mort de Napoléon, le discours d'Emmanuel Macron, il est une part de nous, a dit le président de la République.
Qui n'oublie pas la faute, la trahison de l'esprit des Lumières, le rétablissement de l'esclavage. En 1802, nous serons aux Antilles dans ce journal.
La situation sanitaire en nette amélioration ces derniers jours, mais certains publics prioritaires n'ont toujours pas été vaccinés.
Des personnes isolées ou bien pas équipées en matériel informatique, la Sécu se mobilise pour les contacter pour fixer un rendez-vous.
Au sommaire également ce soir, Stellantis, premier constructeur européen devant Volkswagen.
Et Donald Trump, toujours persona non grata sur Facebook, il est furieux.
Et puis la météo, une persona qui est grata celle-ci, Anissa Haddadi, journée très pluvieuse demain.
Oui, des pluies soutenues, Julien, parfois même orageuses sur la plupart des régions. Le vent reste également sensible sur le nord et au bord de la Méditerranée. Sur le pourtour méditerranéen, là, le soleil sera au rendez-vous. Mais attention, les températures restent bien fraîches pour la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Hommage ce soir à Mérignac, en Gironde. Hommage à Chaïnès, cette mère de famille de 31 ans, brûlée vive par son ex-compagnon. Elle est la 39e victime de féminicide depuis le début de l'année en France.
Oui, un drame qui choque, d'autant plus que le meurtrier est un récidiviste. Il avait déjà été condamné pour des violences conjugales et il avait fait de la prison.
Stéphane Place, vous avez assisté à cette marche d'hommage qui vient tout juste de se terminer.
Oui, un cortège d'environ 500 personnes, digne sous le choc des riverains, des familles, venues parfois avec un bouquet de fleurs, déposées ici devant la maison noircie par le feu, dans cette rue où cette femme de 31 ans a été tuée hier soir dans des conditions atroces. Alain Ziani est le maire de Mérignac.
Comment se peut-il qu'un homme soit capable non seulement de tuer, mais de tuer avec beaucoup de cruauté, de mettre son épouse à terre avec des coups de fusil et une fois à terre, de la brûler vive. C'est quand même d'abord la tristesse. Tout à l'heure, j'étais avec des enfants, ils posaient une question. Pourquoi nous ? Pourquoi nous ?
Et sur toutes les lèvres, des interrogations nombreuses comme celle qui hante Anne, l'une des voisines de la victime.
Il y a quand même des questionnements, pas vis-à-vis de la police. Il faut arrêter d'incriminer la police parce qu'ils font leur taf comme il faut. Ils ont attrapé ce mec il y a déjà un an. Ils l'ont relâché là parce qu'il s'est bien tenu en prison. Ils l'ont relâché au bout de 3 mois au lieu de 9 mois. Voilà, on les remet en circulation. Il faut prendre des mesures comme en Espagne. Ils ont le bracelet, mais il faut prendre des décisions plus draconiennes. Là, les derniers temps, elle se calfeutrait dans sa maison et elle fermait les volets. Elle avait peur, oui.
La cellule de soutien psychologique mise en place ici avec l'aide du SAMU a déjà pris en charge une quarantaine d'habitants bouleversés par ce crime.
Stéphane Place à Mérignac en Gironde, théâtre donc de ce 39e féminicide depuis le début de l'année.
L'actualité, vous le savez, ce sont aussi les commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon avec cet après-midi le discours attendu d'Emmanuel Macron.
Le chef de l'État qui a dû se livrer à un exercice d'équilibriste pour d'un côté célébrer le stratège et l'initiateur de l'État moderne sans nier pour autant la face sombre de l'empereur.
Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. En 1848, la Deuxième République a réparé cette faute, cette trahison de l'esprit des Lumières. Napoléon, ainsi fidèle à l'esprit de 1789, a gravé dans le marbre l'égalité civile entre les hommes, dans le Code civil, la protection de la loi pour tous avec le Code pénal. Nous avons poursuivi cette œuvre de progrès en agissant pour l'égalité entre les femmes et les hommes et en retirant du code pénal le plus cruel des châtiments, la peine de mort. De l'Empire, nous avons renoncé au pire et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur.
Emmanuel Macron cet après-midi à l'Institut de France.
Oui, le président qui rend hommage donc à Napoléon et qui n'occulte pas son côté dans le rétablissement de l'esclavage en 1802.
Fanny Marceau, vous êtes notre correspondante en Martinique. Fanny, aux Antilles, Napoléon laisse une image tellement négative qu'il n'est pas question de le célébrer.
En effet, dans les rues de Fort-de-France, le souvenir de Napoléon a tendance à crisper les passants.
C'est vraiment pas un sujet d'importance, pour moi en tout cas.
Quand je l'ai étudié, je n'avais pas de parti pris, mais depuis hier, comme j'entends dire qu'il a été à l'origine du rétablissement de l'esclavage, donc je ne peux pas avoir la même vue.
Moi, j'aurais pas fêté Napoléon, hein. Parce que c'est lui qui a remis l'esclavage en Martinique et dans tous les DOM.
Dans tous les Outre-mer, Napoléon laisse une image criminelle. En 1802, il rétablit l'esclavage aboli 8 ans plus tôt. Elisabeth Landy, agrégée d'histoire à Fort-de-France.
Jusqu'à aujourd'hui, il reste le symbole du retour à cette société des ténèbres, de la discrimination, de la domination raciale des Blancs. Et tous les espoirs républicains autour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité s'en allaient.
Longtemps, la rumeur a dit que c'était son épouse, née en Martinique, Joséphine, qui lui avait soufflé de rétablir l'esclavage. L'histoire a démenti, mais la statue de l'impératrice a pourtant été jetée à terre l'an dernier. Elle avait trôné dans le chef-lieu pendant 161 ans.
Fanny Marceau, correspondante d'Europe 1 en Martinique.
Si nous maintenons nos efforts, le 19 mai, les terrasses pourront rouvrir, les lieux de culture également. C'est le message rassurant aujourd'hui du porte-parole du gouvernement à 2 semaines de la prochaine étape du déconfinement.
Alors que les chiffres de l'épidémie sont encourageants, même s'il ne faut surtout pas s'emballer, tous les indicateurs sont à la baisse.
Concernant la vaccination, justement, là aussi on est clairement passé à la vitesse supérieure.
Même s'il y a encore des personnes admissibles qui sont passées à travers les mailles du filet, notamment les plus de 75 ans, les pouvoirs publics visent au moins 80% de vaccination dans cette tranche d'âge.
La sécurité sociale a mis en place des plateformes téléphoniques. L'idée, c'est d'entrer en contact avec les personnes âgées isolées ou qui n'ont pas accès aux outils numériques.
Et c'est le cas notamment à Lille. Reportage de Lionel Gougelot.
Allô ? Bonjour madame, je suis Dorothée, infirmière de la sécurité sociale.
À l'autre bout du fil, la fille d'un octogénaire dépendant qui n'a toujours pas reçu de vaccin.
J'avais déjà regardé un peu sur Doctolib pour le faire vacciner.
Ici, à chaque appel, la Sécu propose un rendez-vous de vaccination sur des créneaux qui ont été spécialement réservés.
J'ai la possibilité de vous proposer des rendez-vous sur le centre de vaccination qui est au Zénith de Lille.
Rendez-vous dans la douzaine de centres de vaccination de l'agglomération, voire sur des dispositifs de vaccination mobile. L'important, c'est de proposer une solution de proximité, confie Milana Sissamout, directrice adjointe de la CPAM de Lille.
On est sur une population âgée qui ne souhaite pas se déplacer et faire beaucoup de kilomètres pour se faire vacciner. Elle souhaite se faire vacciner à côté de chez elle, et aujourd'hui, c'est possible.
Avec cette opération Aller Vert, on frôle les 80% de plus de 75 ans vaccinés. Une démarche utile même pour les assurés qui hésitent encore.
Même si parfois on n'arrive pas à décrocher un rendez-vous parce que la personne a besoin de réfléchir, il n'empêche qu'il y a eu un échange, que la personne apprécie cet échange. Elle nous dit qu'elle va en discuter avec ses proches, avec son médecin traitant. Et derrière, alors ça, on ne peut le mesurer, mais ça peut aboutir à un rendez-vous ultérieurement.
Dans les prochaines semaines, le dispositif devrait être maintenu et orienté vers la population des moins de 75 ans. Non, Lille, non. Lionel Gougelot, Europe 1.
Et notez que le Canada vient d'approuver le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les adolescents de plus de 12 ans.
Les régionales, l'épisode Muselier en PACA va laisser des traces.
Le maire de Toulon, Hubert Falco, a déjà fait savoir qu'il quittait les Républicains. Christian Estrosi, le maire de Nice, et Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille, pourraient faire de même. Et puis Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, sera lui bien présent sur la liste du candidat LREM dans les Hauts-de-France, face à la liste de Xavier Bertrand, le ministre de la Justice qui est originaire du Nord.
La disparition inquiétante d'un journaliste français au Mali.
Olivier Dubois aurait été enlevé par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb. C'est ce qu'il affirme en tout cas dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, le Quai d'Orsay confirme sa disparition mais pas son enlèvement. Olivier Dubois travaille pour plusieurs médias français.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, restez avec nous, 19h08 dans quelques secondes. Cocorico, Stellantis numéro 1 au classement des constructeurs automobiles européens.
Et puis mauvaise journée pour Donald Trump qui reste privé de son jouet préféré, les réseaux sociaux.
A tout de suite. 19h10 et on parle automobile dans le journal à présent avec le groupe Stellantis. C'est le groupe, vous savez, qui est issu de la fusion entre PSA, Fiat, Chrysler et qui coiffe Volkswagen sur le fil.
Et oui, Stellantis endosse la couronne de numéro 1 européen de l'automobile. C'est une première, Emmanuel Dutheil.
Voilà une lune de miel qui démarre bien. À peine mariés, PSA et ses marques phares Peugeot et Citroën et Fiat qui détient aussi Chrysler et Alfa Romeo sont donc les plus gros vendeurs de voitures d'Europe sur les 3 premiers mois de l'année. Et si Stellantis démarre bien l'année, c'est grâce aux ventes tonitruantes de sa 208. Sa petite citadine est même devenue le modèle le plus vendu d'Europe devant la Golf de Volkswagen et la Yaris de Toyota. Stellantis place trois autres voitures dans le top 10, l'Opel Corsa, la Peugeot 2008 et la Citroën C3. Stellantis profite aussi des marchés français et italiens qui se sont mieux portés que le marché allemand berceau de Volkswagen. Mais si on ne devait regarder que les ventes de voitures pour les particuliers, c'est Volkswagen qui resterait premier. Stellantis s'empare de la couronne européenne grâce aux ventes de voitures utilitaires. Il vend plus de trois fois plus de ses modèles que Volkswagen. En tout cas, et là, c'est la même chose pour tout le monde. Toute l'industrie est très impactée par le manque de composants électroniques. Selon Stellantis, ce manque a amputé sa production mondiale de 190 000 voitures.
Les précisions d'Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe 1.
Le premier réseau social du monde refuse de réintégrer Donald Trump.
L'ancien président américain espérait pourtant pouvoir sévir de nouveau sur Facebook, dont il était privé depuis l'épisode du Capitole. Eh bien, il devra encore patienter. Alexis Guilleux, le conseil de surveillance, estime en effet qu'il a bien violé les règles du réseau social le 6 janvier dernier.
Oui, ces publications ont créé un sérieux risque de violence, dit cet organe de Facebook. On se rappelle, dans une vidéo, Donald Trump avait notamment qualifié de patriotes les manifestants qui étaient entrés dans le Capitole. Mais le conseil de surveillance de Facebook nuance tout de même. Bannir l'ancien président de manière indéfinie n'est pas la bonne solution. Le réseau social a donc 6 mois pour réexaminer sa sanction. Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, a réagi tout à l'heure sur Fox News. C'est un triste jour pour l'Amérique, un triste jour pour Facebook. Que ce soit 6 mois ou 6 jours, c'est une entrave à la liberté d'expression. Dans un communiqué, Donald Trump parle, lui, d'une honte absolue pour le pays. Les fous de la gauche radicale ont peur de la vérité, mais elle sortira un jour. Les réseaux sociaux ne doivent plus jamais être autorisés à détruire notre processus électoral, dit l'ancien président. Une déclaration que l'on peut retrouver sur son nouveau site internet, ça s'appelle « Depuis le bureau de Donald Trump ». Alors en fait, c'est une sorte de blog où on peut aimer et partager sur Twitter et Facebook ses publications. Mais il n'y a pas de place pour les commentaires. On est donc bien loin du nouveau réseau social promis il y a 2 mois par un conseiller de Donald Trump.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. On vous retrouve évidemment demain à partir de 18h dans Europe Soir. Un coup d'œil à la météo, Anissa Dadi. L'automne revient demain.
Oui, c'est un début mai, effectivement, Julien. Très étonnant, pas commun. Après les giboulées aujourd'hui, demain nous aurons des pluies assez soutenues avec du vent qui va toucher presque toutes les régions demain. Ces pluies seront aussi accompagnées de coups de tonnerre dans l'après-midi. Sur les côtes de la Manche et l'extrême nord, le vent va souffler, tout comme sur le golfe du Lion. Du Languedoc à la Côte d'Azur, là le soleil brille. Donc en fait, au bord de la Méditerranée, c'est printanier et partout ailleurs, c'est automnal et surtout très humide, donc parapluie et ciré obligatoire pour demain. Et en plus de tout cela, les températures, elles, continuent de baisser. Elles sont en dessous des normales de saison. On aura 0 à 12 degrés le matin et puis dans l'après-midi, comptez 10 degrés seulement pour Amiens, 11 à Cherbourg et Rouen, 12 pour Belfort et Lille, 13 degrés à Aurillac et Paris, 15 à Brest, 16 degrés pour Bordeaux, 19 à Biarritz et Lyon. Dans le sud, ça reste doux avec 21 degrés à Marseille et Bastia, 22 pour Avignon et 25 la maximale du côté de Carcassonne.
Toujours Carcassonne, toujours. Ça fait 3 jours que c'est vous annoncez la maximale.
Il fait
à
très
Carcassonne.
Doux, ouais.
Bien, la bonne nouvelle, c'est que le beau temps va revenir ce week-end.
On aura un week-end estival et il va falloir en profiter parce que ça sera une parenthèse enchantée.
Bien,
hein,
mais c'est déjà pas mal une parenthèse enchantée. Merci Anissa, on vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. Vous restez avec nous 19h14 dans un instant. Le grand débat du Club des Idées sur Napoléon. Nous serons notamment avec l'un de ses descendants directs, son arrière-arrière-petit-neveu. D'abord la carte blanche, signée ce soir de l'économiste Nicolas Bouzou.
La Caisse d'Épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, édition spéciale dans notre 18-20 sur l'autre visage de Napoléon Bonaparte. Et vous, vous êtes intéressé à sa politique économique, évidemment, la politique économique de la France, qui a toujours été en somme bonapartiste pour le meilleur et pour le pire.
Oui, alors bon, pour le meilleur, c'est connu, hein, ce sont des choses que l'on enseigne aux enfants, le code civil, l'éducation, les investissements dans les infrastructures, la Banque de France et la stabilité monétaire, la consolidation des acquis libéraux de la Révolution française, tout ceci, bien évidemment, ça a été bon pour l'économie.
Ça, c'est pour le meilleur. Nous, On attend le pire maintenant avec vous.
Et oui, on en parle moins. Mais le protectionnisme, déjà, qui a pris la forme du blocus à l'égard de l'Angleterre. Alors c'est vrai que c'est un débat chez les historiens. Certains historiens considèrent que ce protectionnisme est quelque chose qui a été plutôt bon pour certains secteurs, comme le secteur du textile, par exemple. Mais je considère plutôt que le protectionnisme, en théorie, mais on le voit aussi dans l'histoire, est plutôt quelque chose qui est néfaste.
Il n'a pas été le premier, cela dit. Il y a eu le colbertisme avant lui. Hein,
oui, le colbertisme qui visait déjà à encourager l'économie par des interventions de l'État. Et puis, il y a eu aussi, bien évidemment, l'impact des guerres napoléoniennes. Hein. Quand vous regardez les statistiques économiques de la France, il faut attendre en réalité 1850, c'est-à-dire le Second Empire, pour voir un véritable décollage économique de la France, alors que dans un pays comme l'Angleterre ou dans les Flandres, ce décollage économique, il a eu lieu dès le départ de la révolution industrielle, dans les années 1800-1820. Donc la France a eu 3 décennies de retard sur les pays qui étaient les plus innovants. Et ce retard, on peut le mettre notamment au débit de la guerre. Mais de façon, je dirais, plus psychologique, je pense que le bonapartiste, oui, a donné aussi le sentiment que la politique comptait plus que l'économie. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Bonaparte est l'héritier de Robespierre. Ce qui compte, c'est la morale, c'est la diplomatie, c'est la politique. Ce sont tous ces éléments qui vont faire la grandeur de la France. Et l'économie, pour Robespierre comme pour Napoléon, est quelque chose de secondaire. Et bien, cette idée, vous voyez,
je pense que... Le parallèle est osé quand même. Robespierre-Napoléon.
Oui, mais je pense que cette idée qu'ils ont en partage, hein, cette idée, cette vision secondaire de l'économie, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme l'une des sources du déclin français. Bonaparte n'a pas compris que l'économie, c'était l'une des causes, c'était l'une des conditions de la puissance, eh bien c'est quelque chose que nous payons encore.
Bien, merci pour cette carte blanche, merci. Bonapartiste, d'une certaine manière, mon cher Nicolas Bouzou, merci à vous.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1, Julien Bugier.
19h17, on va continuer évidemment ce soir à parler de la figure méconnue parfois de Napoléon, personnage controversé, sa part d'ombre également, Napoléon intime, Napoléon machiste aussi, dit-on. On en parle avec nos invités, restez avec nous, à tout de suite. Avec la suite de notre émission spéciale sur le bicentenaire de la mort de Napoléon et nos invités dans le débat du Club des Idées, qui était vraiment Napoléon? Pourquoi est-il aujourd'hui si controversé? Était-il d'ailleurs fondamentalement esclavagiste? Faut-il le commémorer ou le célébrer pour ses conquêtes militaires et l'héritage qu'il a laissé à la France? La Banque de France, le baccalauréat, le concordat, le code civil, et puis les grands travaux bien sûr, l'Arc de Triomphe, la colonne de Vendôme, l'église de la Madeleine ou encore le palais Bourbon. On en parle donc ce soir jusqu'à 20h avec nos invités et notamment Charles-Éloi Vial. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire, conservateur à la BNF, auteur de nombreux ouvrages sur Napoléon, dont Napoléon, la certitude et l'ambition. C'est un ouvrage illustré en coédition avec la BNF qui est sorti il y a un peu moins d'un an. On en parle également avec Pierre Branda. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien également, grand spécialiste de Napoléon, auteur notamment de Napoléon à Sainte-Hélène, aux, oui, éditions Perrin, qui vient de sortir. Et on en parle avec Philippe Torreton. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Comédien, auteur, vous avez joué le rôle de Napoléon dans Monsieur N, qui est sorti il y a un certain temps maintenant, c'était en 2002, merci d'être avec nous par téléphone. Et puis j'accueille également dans le studio d'Europe Soir, Charles Bonaparte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le descendant direct de Napoléon Ier, son arrière-petit-neveu.
Oui, neveu, donc pas direct en réalité.
Auteur de La Liberté Bonaparte, sorti aux éditions Grasset, il y a également quelques jours. Est-ce que d'abord, Charles Bonaparte, le nom de Bonaparte, c'est un nom qui est facile à porter et c'est un nom dont vous êtes très fier aujourd'hui?
C'est un héritage considérable, si vous voulez, sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan politique. C'est un héritage français, c'est un héritage européen. Et avec la mondialisation des cultures, c'est aussi un héritage mondial.
Bon. Oui.
Alors, en effet, il faut dans le développement de quiconque trouver la place entre un héritage et le développement d'une personne. Voilà, et c'est l'objet de mon livre, d'expliquer cette aventure, au fond, qui m'est arrivée par les hasards de la naissance, de rencontrer cet héritage et de devoir faire mon parcours personnel à côté et avec cet héritage.
Vous en avez entendu parler pendant toute votre enfance, de ce personnage qui plane évidemment sur la famille?
En effet, oui, je peux dire que je
suis né... Vous avez grandi dans le culte de Napoléon?
C'était un culte plus, je dirais, culturel, c'est-à-dire entourés d'objets, si vous voulez, qui appartenaient à la famille et qui étaient des grands objets napoléoniens, dont certains sont très connus parce que certains sont aujourd'hui dans les musées nationaux. Donc, effectivement, j'ai été élevé dans ce culte, de manière en réalité implicite, parce que dans ces milieux-là, lorsque l'on est quelque part, au fond, la culture arrive à soi et la culture n'est pas expliquée, elle n'a pas besoin d'être expliquée.
Oui, oui. Vous êtes intarissable sur Napoléon, j'imagine.
J'ai quelques idées sur la question.
Et modeste avec ça. Alors aujourd'hui, évidemment, le président de la République a commémoré, et non célébré, la nuance est importante, on va en parler avec mes invités, la figure de Napoléon Bonaparte, et le président de la République a dit ceci.
Napoléon Bonaparte est une part de nous. Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout 1000 cordes d'imaginaire. Les canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques grelottantes des soldats de la Grande Armée engagés dans la campagne de Russie. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur, autant que du bâtisseur, portent encore jusqu'à notre siècle.
Au vu de la controverse, Pierre Branda, qui entoure aujourd'hui la figure de Napoléon, est-ce que vous trouvez que c'est un hommage équilibré ?
Oui, je pense que c'est un hommage assez équilibré, je dirais même un petit peu osé, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, dans son discours, a été plus loin, par exemple, que Georges Pompidou, qui avait raconté l'histoire de Napoléon, avait donné quelques sentiments, mais finalement très peu, et Emmanuel Macron en a donné finalement plus, les siens. Je dois dire qu'il a donné une version qui...
C'est vrai qu'on attendait, pour être tout à fait franc, une critique un peu plus forte de la part du président de la République, une distance en tout cas.
Alors, son propos, quand il dit « c'est une part de nous », c'est-à-dire, effectivement, Napoléon est incontournable, et qu'on l'aime ou on le déteste, il nous appartient, il fait partie de notre histoire. Il rappelle aussi quelque chose qu'avait dit Chateaubriand, c'est-à-dire que Napoléon avait réussi à frapper l'imaginaire des peuples. Et c'est ça aussi, sa réussite. Il a cité les canonnades, enfin la retraite de Russie, etc.
Avec une petite analogie avec... Sa figure à lui, au président de la République, quand il dit « on aime Napoléon parce que sa vie a le goût du possible, parce qu'elle est une invitation à prendre son risque ».
Oui, oui, tout à fait. Là, il nous rappelle le professeur d'énergie de Maurice Barrès et la force d'entraînement de Napoléon qui a rendu possible l'impossible. Ouais. Quand Napoléon a dit « l'impossible n'est pas français ». Donc il rappelle toutes ces grandes lignes et finalement, par ses rappels et ses références non dites, mais qu'il s'approprie en réalité, il a conçu un discours plus osé que celui de Pompidou. Et il faut rappeler aux éditeurs qu'en fait, c'est le deuxième président de la République seulement à s'exprimer au sujet de Napoléon. Et il y en a eu, le premier étant Pompidou, le deuxième c'est lui, il n'a pas eu avant. À propos de Napoléon.
Alors Pierre Branda, on va justement écouter Georges Pompidou, discours tenu à Ajaccio le 15 août 1969 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon.
Même si nous savons que l'heure n'est pas pour nous de prétendre dominer l'Europe et le monde, il suffira d'ailleurs de rester fidèle aux ultimes recommandations adressées par Napoléon au peuple français et qui se trouvent au bas de l'acte d'abdication signé le 22 juin 1815 au palais de l'Élysée. Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester une nation indépendante.
C'était il y a 51 ans, en 69, et c'est vrai, Charles Loivial, que depuis, aucun président n'a rendu un hommage, quel qu'il soit d'ailleurs, à la figure de Napoléon. Jacques Chirac avait refusé de le faire en son temps. Pourquoi ?
Alors, si je me souviens bien, j'étais au lycée à l'époque, donc ça m'a touché d'un peu loin, mais j'ai lu des choses depuis.
Vous vous êtes rattrapé.
Je me suis rattrapé, effectivement. Il y avait plus une sorte de timidité ou de pudeur à célébrer Austerlitz, victoire très franche, et du coup, il avait préféré à l'époque envoyer le Charles de Gaulle pour des manœuvres militaires qui servaient de commémoration pour la défaite navale de Trafalgar. Donc, volonté de commémorer une défaite. Donc, Napoléon un peu plus en berne. Et là, on a eu l'impression avec le discours du président que Napoléon était davantage reconnu, entre autres pour sa gloire militaire.
Alors, je vais vous poser volontairement la question de façon un peu provocatrice, Charles Bonaparte, même si je n'aime pas les jugements binaires. Mais était-il un génie ou un despote, Napoléon ?
Probablement les deux. C'était un génie C'est un homme, si vous voulez, qui a fait quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire changer une révolution en quelque chose de positif, qui construise un État moderne et qui jette les bases de la République. Oui. Donc c'est un tournant extraordinaire dans l'histoire de la France et donc dans l'histoire de l'Europe, puisque au fond, derrière ces armées, ces institutions ont été mises en place à travers toute l'Europe. Alors voilà pour le côté génial. Alors après, pour le côté despotique, il est indiscutable que les conditions de l'exercice, les conditions d'abord d'accès au pouvoir, c'est tout de même un coup d'État.
On va en parler.
Et ensuite, il a gouverné avec des moyens politiques qui étaient à sa disposition à l'époque.
Oui.
Là aussi, il faut relativiser. Mais on peut aujourd'hui fort bien les qualifier de despotiques, ça ne me dérange nullement.
Bien, merci pour cette introduction. On va évidemment continuer d'en parler et on va revenir sur la destinée incroyable et le parcours évidemment de la figure de Napoléon. Vous restez avec nous, Philippe Torreton. Je vous donne la parole juste après la pause. À tout de suite. Avec la suite de notre émission spéciale sur le bicentenaire de la mort de Napoléon, on continue de plonger dans la figure de Napoléon Bonaparte. Alors c'est vrai que vous évoquiez Charles Bonaparte il y a quelques instants, l'arrivée au pouvoir par la force des armes de l'ancien empereur. C'est un coup d'État qu'il fait, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, les 9 et 10 novembre, 10 ans après les débuts de la Révolution française. Il a seulement 30 ans à l'époque et il devient en quelques instants le nouveau chef de l'État. Je vous propose d'écouter un court extrait de la mini-série Napoléon réalisée par Yves Simoneau qui avait été diffusée sur France 2 avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon.
Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Seyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République. Vive Bonaparte !
Alors ce qu'il faut rappeler, Pierre Branda, dans cette prise de pouvoir, c'est que tout à chacun pousse Napoléon pour qu'il l'aide à cette prise de pouvoir, mais personne ne pense alors que Napoléon va s'ériger en chef de l'État, aidé d'ailleurs par son frère.
Oui, tout à fait, par son frère Lucien. Napoléon arrive sur le tard, sur ce coup d'État qui veut mettre fin au directoire, ce régime qui en fait est tout sauf une république comme on l'entend aujourd'hui. Hein. Ce sont des directeurs qui se sont perpétués par des coups de force, et en fait on les chassait par un coup de force, mais qui au départ n'est pas aux militaires, il est parlementaire, mais comme voilà, aux assemblées ça ne va pas se passer comme on le prévoyait, eh bien Bonaparte fait intervenir la troupe, c'est Murat qui dit « foutez-moi tout ce monde dehors ». Et donc que le coup d'État devient militaire, mais au départ il devait être parlementaire, mais en fait il n'avait pas calculé que jamais les
parlementaires... Parce que Bonaparte a le soutien des militaires, c'est déjà un général émérite.
Oui, mais il a le soutien des militaires, mais il a aussi un large soutien dans la classe politique d'alors,
hein, de Talleyrand,
de Talleyrand Fouché. Oui, il est au moment
populaire.
Où il débarque, revient d'Égypte et débarque à Saint-Raphaël, toute sa remontée vers Paris est une remontée en triomphe, donc on attend un sauveur. Au bout de 10 ans, la France est quand même assez c'est éprouvé par la Révolution, par la guerre civile, par les guerres aux frontières et par la ruine économique aussi. Hein. Donc les Français veulent de l'ordre, cherchent un changement de régime et un coup d'État était déjà en préparation et aurait eu lieu sans Bonaparte en fait.
Hein. Charles Bonaparte, vous qui êtes un descendant de Napoléon Ier, qu'est-ce qui fait que ce petit Corse, puisqu'il est né en Corse, est devenu un général de cette envergure?
Probablement... En partie l'âme corse, je dirais. Où il y a ce regard...
Tous nos amis corses qui nous écoutent vont être ravis de ce que vous dites.
Bien sûr, on les salue. Ben, c'est vrai, parce que, je veux dire, en Corse, on a la culture du regard que l'on porte sur soi. C'est une société méditerranéenne. La culture de l'honneur, si vous voulez. Napoléon parle très souvent de l'honneur. Aujourd'hui, c'est un concept qu'il est difficile de comprendre. Mais au fond, ça parle du regard que l'on porte sur soi. Et l'objectif d'un homme, c'est d'être valorisé déjà par lui-même et par les gens qui l'entourent. Voilà. Bon, alors après, il y a évidemment des qualités exceptionnelles qu'il développe d'abord sur le terrain militaire et ensuite sur le terrain civil et politique. Il y a aussi, il faut le reconnaître, une certaine modestie, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que les premières séances du coup d'État, du Conseil d'État, pardonnez-moi, ont été destinées à former, au fond, le premier consul, qui n'avait pas d'expérience du gouvernement civil. Et donc, il a appris très vite, mais il a accepté d'apprendre, ce qui est une grande qualité.
Alors, il naît à Ajaccio et par l'intermédiaire de son père, il va obtenir une bourse pour entrer à l'école royale militaire de Brienne, puis à l'école militaire de Paris. Lorsque la révolution éclate en 1789, le lieutenant Bonaparte a tout juste 19 ans, mais il est plus préoccupé à l'époque par la Corse. Et puis en 1793, c'est vraiment son premier fait d'armes, c'est le siège de Toulon. Il est alors commandant d'artillerie où il va montrer d'une certaine manière son génie militaire face aux royalistes et aux britanniques. C'est là vraiment que l'armée, Charles-Éloi Vial, le découvre comme l'âme d'un chef.
Alors l'armée découvre un chef, même s'il a du mal à imposer ses idées, à imposer son plan d'attaque, qui est inspiré, semble-t-il, du fait que la rade du port de Toulon ressemble au port d'Ajaccio. Donc c'était une configuration de terrain qu'il connaissait assez bien. Il a du mal à faire entendre ses idées, mais les soldats découvrent un chef, quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à combattre puisqu'il va être blessé à Toulon, oui. Il va garder une cicatrice toute sa vie. Et surtout, Napoléon se découvre lui-même. C'est là, peut-être, qu'on peut situer ce qu'on appelle le surgissement, le moment où Bonaparte découvre ses capacités extraordinaires, ses capacités de leader, ses capacités de stratège, sa capacité à se faire obéir, à transcender aussi ses soldats. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un général qui est né, un général aux capacités hors du commun.
Puis c'est la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, et le retour à Paris avec la prise de pouvoir. Alors, on est avec Philippe Torreton, comédien, auteur. Rebonsoir, Philippe Torreton. Vous avez joué d'ailleurs le rôle de Napoléon dans Monsieur N, sorti en 2003, je crois, qui est un film réalisé par Antoine Decaute. Je vous propose qu'on en découvre un court extrait, puis on vous écoute juste après. On vous donne la parole.
J'étais en Russie pour combattre des hommes en armes, et non l'hiver. C'est le froid, et non l'ennemi, qui nous a détruits.
Et à Austerlitz, lorsque vos canons tirent sur la glacière, n'était-ce pas le même froid qui servait vos intérêts?
Si le froid ne porte pas d'uniforme, l'histoire ne devrait pas en porter non plus.
L'histoire appartient à ceux qui la racontent, Betsy.
Et vous jouez évidemment, Philippe Torreton, Napoléon dans Monsieur N. On sent le poids de l'histoire quand on joue un personnage comme celui-ci?
Ah oui, indéniablement, oui. Oui. C'est assez colossal. Ça fait assez peur. Après, il faut se faire confiance et puis... être fidèle au scénario. Moi, j'ai eu la chance de m'appuyer sur un scénario écrit par René Manzor, qui était absolument formidable.
Oui.
Et faut éviter de vouloir tout prendre en compte, parce que c'est une personnalité tellement immense, avec tellement de facettes, comme vous l'évoquiez avec vos invités tout à l'heure, qu'on est obligé d'éditorialiser son interprétation.
Vous avez pris des libertés ou vous avez vraiment joué le mimétisme dans votre jeu d'acteur ?
Il n'y a aucun mimétisme à avoir, puisqu'on n'a pas d'image animée de lui. Oui. Donc personne ne sait comment, même cette fameuse main dans le gilet est une légende. Enfin, c'était une posture pour les peintres, parce que voilà, il fallait pas avoir les bras ballants quand on était peint. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Donc il y a pas de... Non, au contraire. Enfin, moi, physiquement, je me sentais assez libre.
Oui.
J'ai essayé d'aller vers une rondeur, vers un visage qui ressemblait à quelque chose. Mais c'est surtout c'est sentimental, l'approche qu'on peut en avoir. Moi, je sais que je m'étais beaucoup, beaucoup appuyé sur un livre de Jean-Paul Kaufmann, la Chambre noire de Longwood, avec ce magnifique portrait d'ailleurs qui n'était pas un portrait, qui était une inspiration d'un peintre anglais postérieur à Napoléon, et qui en avait fait un visage très mélancolique, très très triste. Et moi, ça m'avait fasciné, ça. J'avais envie d'aller vers cette tristesse-là, vers cette mélancolie-là, de cet homme qui a tout eu et qui se retrouve comme ça au milieu de l'Atlantique.
Oui.
Il y a forcément une mélancolie, parce c'est un destin vertigineux. Moi, oui. Je trouve que le mot vertige est un mot qui lui correspond le plus.
Enfin, on sent une forme de fascination quand vous en parlez, Philippe Torreton.
Ah mais total, oui, total. Oui. Et fascination, oui, parce que c'est un destin unique, unique. Après, moi, le débat pour ou contre, je trouve que ça n'a aucun sens. Il faut s'y intéresser, voilà, il faut s'y intéresser, il faut interroger, comme on interroge toutes les périodes de notre histoire, et il faut en tirer des leçons, etc. Mais ça n'a aucun sens d'être pour ou contre Napoléon. Pour moi, je trouve que c'est un débat stérile. C'est juste, intéressons-nous. Mais comme on peut s'intéresser à d'autres périodes. Et il se trouve que les grands personnages qui ont marqué notre histoire ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, je pense qu'il est un des premiers, si ce n'est le premier, le seul d'ailleurs, qui a marqué à ce point-là en aussi peu de temps.
Oui. Alors, vous restez encore un instant avec nous, Philippe Torreton, parce qu'on a plein de questions à vous poser, évidemment. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites et qu'on s'intéresse quelques instants à la part sombre du personnage, évidemment Napoléon, dont on parle beaucoup en ce moment, alors qu'on commémore le bicentenaire de sa mort, c'est le rétablissement de l'esclavage. Il rétablit même le code noir. Et c'est vrai que c'est un revirement, d'une certaine manière, Pierre Brandat, car c'est lui l'homme qui avait libéré les esclaves à Malte et en Égypte, et même exprimé en 1799 qu'il ne reviendrait pas sur l'abolition. Et puis, poussé pour des raisons économiques, d'une certaine manière, il décide de rétablir l'esclavage aux Antilles.
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, sa position évolue, change. Alors, il dit qu'il a cherché des synthèses et aussi la loi de la majorité. En fait, ce qui se dégage à l'époque, la guerre avec l'Angleterre s'étant achevée, on peut revenir aux Antilles, on peut revenir au commerce colonial et reprendre pied dans cette partie du monde qui, hélas, économiquement, repose sur l'esclavage. Napoléon dira qu'il a commis une faute, qu'il s'est trompé. C'est un dossier qu'il connaît mal. Il ne s'y est pas rendu. Il est jeune. Alors, tout ça ne l'excuse pas, hein. Évidemment pas. Mais c'est, si je puis dire, un entraînement, une vitesse aussi, hein. On va très vite sur ce dossier. Et ainsi, ça va provoquer une catastrophe militaire, évidemment humaine, sur ce plan-là. Donc, c'est tout un contexte évidemment, qui pousse à cela. On peut penser que malheureusement, la société telle qu'était faite, même sans Bonaparte, le rétablissement de l'esclavage était assez probable, malheureusement. Hein.
Et puis, il y a la comparaison, Charles Loivial, avec les Anglais, puisque la Martinique pratiquait l'esclavage, et Napoléon et ses têtes pensantes militaires voient la différence aussi de fonctionnement entre les deux îles des Antilles.
Oui, il y a toujours cette idée qui ressort que Napoléon voit ce qui marche, voit ce qui ne marche pas, et Napoléon en réalité est un très grand pragmatique. Et ce n'est qu'après qu'il revient, il réfléchit sur ce qu'il a fait, il se rend compte peut-être qu'il a eu tort, et en réalité on le voit bien à Sainte-Hélène, il se rend compte que la postérité va lui reprocher ce rétablissement de l'esclavage, il essaye même de faire affranchir des esclaves une fois qu'il est à Sainte-Hélène, parce qu'il essaye en quelque sorte de rattraper le coup face à la postérité.
C'est un regret sincère.
On ne le saura jamais, on ne peut pas entrer ni dans les cœurs ni dans les esprits, on s'arrête aux documents quand on est historien.
Est-ce qu'à l'époque, ça fait débat quand il rétablit l'esclavage Charles Bonaparte, j'ai cru comprendre que seul l'abbé Grégoire s'en était ému à l'époque, mais que dans l'opinion publique et chez les intellectuels de l'époque, ça ne fait pas grand bruit.
La position du siècle de Lumière sur l'esclavage n'est pas extrêmement claire.
C'est vrai.
La position d'hommes comme Voltaire, par exemple, sur la question de l'esclavage, était loin d'être claire. Il y avait cette vision, si vous voulez, du bon sauvage qui a continué et qui imprègne en fait le courant romantique français pré-révolutionnaire, si je puis dire. Bon. Donc cette vision-là ne favorise pas la vision de l'égalité entre les hommes. Le bon sauvage, il reste un sauvage, si vous voulez. Bon. Et il est certain que Napoléon, comme le disait tout à l'heure Brandat, il voit ça de très loin. C'est quelque chose qui est très loin de son univers. C'est un Méditerranéen, c'est un Corse, c'est un Français, bon, de fraîche date, si on peut dire d'une certaine manière. Et donc tout ça est très très lointain. Mais dans ses écrits, il n'y a pas de traces, si vous voulez, de racisme au sens où on peut le dire, si vous voulez, dans sa correspondance. On la connaît bien, on l'a lu chacun de près. Moi, en tout cas, je n'ai rien trouvé de semblable.
Non, mais il est toujours difficile de juger l'histoire à l'aune de notre époque, mais
bien entendu.
On peut quand même définir s'il était, oui ou non, esclavagiste, et fondamentalement esclavagiste. Ah bah, la réponse est plutôt non.
La réponse est que probablement, fondamentalement, il ne l'était pas. Il partageait les préjugés des gens de son temps, mais politiquement, il l'a été, puisqu'il a rétabli, au fond, la traite et l'esclavage.
Oui. Philippe Torreton, sur ce point, c'est une des faces sombres du personnage qui vous trouble, j'imagine.
Oui, enfin, ça me trouble avec les yeux d'un homme d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que ça n'a pas vraiment de sens, tout ce pour et contre. Il faut noter ça, voilà. Il faut effectivement se dire qu'il y a eu ça, il y a eu d'autres choses qui nous paraissent positives, d'autres choses qui nous paraissent négatives aujourd'hui, mais comme le rappelait un de vos invités, visiblement, le rétablissement de l'esclavage aurait probablement été fait par quelqu'un d'autre.
Oui.
Et on a tendance comme ça à être dans une sorte de pour ou contre, noir et blanc, pardon de cette image, mais et ça n'a pas de sens. C'est ça que je veux dire. Mmh. C'est le, par exemple, sur le par rapport à la Révolution française, parfois quand j'entends certaines personnes commenter ce despote qui vient arrêter la Révolution. Non, il n'arrête rien. La Révolution n'était pas dans un monde idéal non plus. Nul ne sait aujourd'hui, sans Napoléon, ce que serait devenue cette Révolution. Oui. Peut-être oui. que ça aurait été une déliquescence de l'État totale. On était agressés par des tas de nations qui nous voyaient, qui nous regardaient d'un sale œil, tous des monarchies absolues autour de nous. Qu'est-ce qu'il en aurait été de la France si Napoléon n'avait pas été là ? Et en disant ça, je ne dis pas que ça a été le sauveur. Oui. Simplement, arrêtons de vouloir penser en binaire les choses.
Ne soyons pas manichéens, on vous entend.
Absolument, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure.
Ouais. Philippe Torreton, vous restez encore avec nous. Justement, on va aborder dans quelques secondes, juste après la pause, les succès aussi de Napoléon et ses grands accomplissements, les grandes œuvres en somme. À tout de suite. Et on poursuit de parler de Napoléon à l'occasion du bicentenaire de sa disparition. Alors, on évoquait les guerres napoléoniennes. Philippe Torreton nous disait à l'instant que c'est vrai que la France, à l'époque, était cernée par des coalitions de monarchies de 92 à 1818. Sept coalitions se sont formées contre la France. Les armées vont mener 2000 batailles, rendez-vous compte, en 15 ans, avec une grande majorité de victoires napoléoniennes. On pense évidemment aux victoires célèbres, Marengo, Austerlitz, Iéna, Wagram, et puis des défaites, bien sûr, la campagne de Russie avec Waterloo. Napoléon a réussi en quelque sorte à mettre l'Europe à ses pieds. Son influence ira de l'Espagne au Grand-Duché de Varsovie. Mais c'est aussi cette même ambition qui le perdra, Pierre Branda. C'était un conquérant destructeur, comme le disait tout à l'heure notre journaliste Laure d'Autriche.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, avec Austerlitz surtout, hein, qui est une victoire incroyable, très loin dans l'Europe de l'Est, Napoléon pense que effectivement il n'y a plus de limite à son pouvoir, à son ambition. Et Philippe Torreton l'a rappelé justement tout à l'heure. Au départ, on est quand même agressé par beaucoup de monarchies et les ennemis restent des monarchies. Ce ne sont pas ni des républiques ni des démocraties. Hein. Ce sont quand même, par exemple, la Russie du Tsar qui pratique le servage. Hein. Bon. La lutte continue avec ces puissances-là, mais Napoléon entrant si loin en Europe, bouscule les équilibres géopolitiques et se heurte aux ambitions mais séculaires de beaucoup de pays, c'est ça le problème. La Russie, la Prusse, l'Autriche, etc. Et donc, comme il veut affirmer une prépondérance française, l'ennemi principal, c'est l'Angleterre, qui n'en veut pas oui. de cette prépondérance et qui ne va cesser de lui faire la guerre jusqu'au bout, qui va finir par l'emporter. Mais il y a aussi une part d'ambition de Napoléon. La guerre d'Espagne est une erreur, par exemple. Sa campagne de Russie, évidemment, aussi. Oui. Mais tout ça est dans un ensemble et finalement dans une continuité qui part de la Révolution aussi, hein, mais qui entre vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Bonaparte, derrière les armées de Napoléon, il y a aussi les institutions qui arrivent derrière, mais ça, l'Europe, si je puis dire, change de régime assez rapidement, mais elle n'est pas passée par la case Révolution, donc cette modernité, parfois, elle n'est pas comprise.
Alors, vous savez comme moi, Pierre Branda, que dans les grandes victoires et les grandes batailles, il y a aussi la petite histoire, et notamment pour la bataille d'Austerlitz, la légende du soleil qui se lève et annonce la victoire. On écoute un nouvel extrait de la mini-série Napoléon, diffusée en 2002 sur France 2, avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon.
Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au Manuel Char, monsieur de Caulaincourt. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen.
Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir. Je connais bien le soleil et moi.
Le soleil maintenant ?
Mais le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire.
Alors, je ne sais pas si ça s'est passé tout à fait comme ça, Charles Loivian, vous êtes docteur en histoire et conservateur à la BNF. Mais c'est vrai qu'il y a cette légende autour de Napoléon qui pensait que les éléments aussi étaient de son côté pour gagner les grandes victoires.
Oui, il y a beaucoup de légendes autour de Napoléon et il y a surtout cette confiance que Napoléon a. Il parle souvent de son étoile, fasciné par le soleil. On retrouve cette notion de soleil d'Austerlitz quand il va se battre en Russie, par exemple, en 1812, il attend le soleil d'Austerlitz au matin de la bataille de la Moscova. Bon, le soleil ne va pas vraiment pas se lever de la même façon. À nouveau, pendant la bataille de Leipzig, il parlera du soleil d'Austerlitz.
Oui.
C'est une question qui l'obsède un petit peu. Et oui, peut-être que les éléments jouent en sa faveur, sauf la mer, puisqu'il n'arrive pas à battre les Anglais à Trafalgar, sauf peut-être la pluie, parfois aussi, la pluie qui détrempe le sol à Waterloo, qui empêche les chevaux de charger. Donc tous les éléments ne sont pas toujours en sa faveur.
Alors il y a aussi le personnage Charles Bonaparte. Napoléon, contrairement aux idées reçues, n'était pas petit. Il mesurait 1m69 et je crois qu'à l'époque, la moyenne pour les hommes, c'était plutôt 1m65. Donc oui, il faisait plutôt partie des grands hommes. Ça aussi, c'est une légende. Philippe Torreton évoquait la main sur le cœur. C'est vrai que c'est une représentation qu'on connaît tous. Ça aussi, c'était une légende. Il ne mettait pas du tout sa main là. C'était pour la représentation et pour la peinture.
Absolument. Mais c'était un génie de la communication. Beaucoup l'ont dit avant moi. C'était en effet... Et en réalité, cette histoire de taille, c'est en partie lié à la propagande anglaise. Parce que c'est les Anglais qui le représentaient toujours comme particulièrement petit, à côté de soldats qui étaient beaucoup, beaucoup plus forts et beaucoup plus grands que lui. Ce qui était vrai objectivement, puisque à l'époque, les militaires portaient des bonnets qui étaient très élevés.
Oui.
Et donc, forcément, lui qui n'en portait pas paraissait petit à côté. Mais tout ça, ça fait partie, en effet, de la légende.
On dit aussi qu'il était beaucoup plus joli garçon sur les peintures qu'il ne l'était en réalité.
Écoutez, je n'ai pas d'opinion sur la question.
Non, mais ça participe aussi au personnage qu'il était, et tel qu'il se voyait aussi.
Enfin, entre l'homme du pont d'Arcole et le défait de Waterloo, on n'a pas du tout le même homme. Hein. Il est certain que le jeune général de la Révolution a un profil magnifique de vainqueur, avec des cheveux longs dans le cou, enfin, une espèce de force, on sent la puissance et la force. Bon, même si ses peintures devaient beaucoup au génie de sa propagande, il n'empêche que quelque part, on le retrouve bien.
Alors, il était aussi, pour l'anecdote, un grand consommateur d'eau de Cologne. Il s'en frictionnait, en buvait quelques gouttes avant chaque bataille, paraît-il, car c'était une élixir. Hein. Il faut s'imaginer que ça n'était pas simplement pour se parfumer à l'époque. En 1810, on compte des moyennes de consommation de 36 à 40 bouteilles d'eau de Cologne par mois pour Napoléon Bonaparte. Il aimait aussi beaucoup se prendre des bains, se laver. Et alors, j'ai vu aussi qu'il avait expérimenté l'aventure homosexuelle, qui était à l'époque, dit-on, l'apanage des conquérants, comme Alexandre le Grand ou encore Jules César. Oui. Et donc, il a voulu faire pareil et il a expérimenté l'homosexualité. C'est intéressant parce qu'il se comparait, par conséquent, à ces grands conquérants qui ont traversé l'histoire.
C'est possible. Je n'ai pas connaissance de cette page de l'histoire. Enfin, je ne sais pas, peut-être...
Moi non plus. Vous non plus, d'accord. Non. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu et vu chez de nombreux historiens. Était-il machiste, comme ça a été beaucoup dit, Napoléon Bonaparte, Charles-Éloi Vial?
Là aussi, il n'échappe pas aux préjugés de son temps. On pourrait lui reprocher de n'avoir pas su s'en délivrer, n'avoir pas pu atteindre à notre conception du XXIe siècle. Mais là aussi, c'est un homme de son temps. On peut dire qu'il exagère quand même, il force un peu le trait. On voit que Germaine de Staël, par exemple, qui est une de ses opposantes, c'est une de celles qui va recevoir le plus de critiques très machistes de sa part. En réalité, Napoléon écoute les conseils de certaines femmes de son entourage. Il écoute les conseils de Joséphine, par exemple.
Oui.
Il confie la régence de l'Empire à Marie-Louise en 1813, en 1814. Donc, elle gouverne l'Empire à sa place. Elle signe des décrets, elle prononce des condamnations à mort, elle préside le Conseil des ministres. Donc, il lui fait confiance, et c'est une femme. Il confie des missions diplomatiques à une femme, au moins en une occurrence. Et à Sainte-Hélène, il exprime même des regrets en disant qu'il aurait dû davantage écouter les femmes, davantage se reposer sur les femmes de son entourage qu'il ne l'a fait.
Alors, il y a aussi des musiques et des chants qui accompagnent la figure de Napoléon Bonaparte, et notamment le chant du départ. On en écoute quelques notes et vous commentez juste après. C'est par le parcœur, Charles Bonaparte. Qu'est-ce qu'il représente, cet hymne?
Ça représente la France en mouvement, ça représente la France qui laisse tomber les oripeaux de l'ancien régime pour aller vers un régime d'égalité entre les hommes et qui pour cela doit se défendre dans des guerres, dans des conflits où les hommes meurent.
Qui l'a écrit, cet hymne?
Alors,
Chénier.
Qui ça, dites-vous?
Chénier, le compositeur.
Chénier, voilà, Chénier. C'est ça, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est un air qui a qui est absolument magnifique, quoi, hein, qui me donne la chair de poule. Enfin, le républicain entend ça et comment dire, fait le lien avec toute l'histoire de la France. D'ailleurs, c'est un chant qui a été repris pendant le conflit de 14-18 et plus tard, quoi.
Oui, comme le chant des partisans, ça fait partie de ces chants qui ont traversé l'histoire.
Ça fait du bien d'entendre ça dans les débats sur Napoléon, parce qu'on touche là vraiment la fibre de l'amour que les gens ont pour Bonaparte. Bonaparte, il a porté très haut les valeurs de la République.
Alors, les équipes d'Europe Soir ont retrouvé une archive qui va sans doute vous faire plaisir par conséquent. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui en meeting le 6 mai 1974, chante le chant du départ.
Nous allons chanter le chant du départ, qui exalte à la fois la victoire et la liberté. En chantant, nous ouvre la barrière.
Voilà, c'est collecteur ça, Charles Éloi Vial.
J'ai l'impression qu'il chantait aussi faux que Napoléon. Je crois que c'est un des valets de chambre de Napoléon qui...
Il chantait pas super bien, Valéry Giscard.
Napoléon chantait faux en se rasant, c'est un de ses valets de chambre. À l'île d'Elbe, il chantait des chants révolutionnaires très faux, et là on retrouve à peu près la même chose.
Quel est l'héritage aujourd'hui, tiens d'ailleurs, je continue avec vous, Charles Éloi Vial, quel est l'héritage aujourd'hui politique de Napoléon? Quand on dit « je suis bonapartiste » par exemple...
Oh là, on n'entend plus trop ça de nos jours.
On l'a entendu
un petit peu. Est-ce que vraiment on sait, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que veut dire le mot, la notion même de bonapartiste? Est-ce qu'ils sont peut-être pas plutôt napoléonistes, comme on l'était, c'est-à-dire un soutien conditionnel à la personne de Napoléon, plutôt qu'aux idées du bonapartisme qui vont être plutôt reprises par Napoléon III? Le bonapartisme est plutôt une notion du Second Empire que du Premier. Ça reste à voir. Donc quand j'entends des fans de Napoléon, des admirateurs.
Au même titre que le gaullisme, la grandeur de la France.
C'est-à-dire le bonapartisme, c'est d'abord une figure incarnée. Donc il faudrait que, pour qu'il y ait un bonapartisme d'aujourd'hui, une figure s'incarne autour de ça. C'est quand même la figure du sauveur c'est lié assez à la personne. Napoléon Ier n'a pas développé de théorie politique, il n'était pas un idéologue, il détestait ça d'ailleurs, et donc ça a été quelqu'un de pragmatique qui a bâti un magnifique destin, mais voilà, quelqu'un de pragmatique et qui a cherché, j'ai dit tout à l'heure, la loi de la majorité, qui a voulu concentrer autour de sa personne une union nationale.
Il nous reste quelques secondes. Quelle est la plus belle de ses réalisations? Et là, je parle de réalisations, l'Arc de Triomphe, la colonne de Vendôme. Quelle est la plus belle de ses réalisations pour terminer
La plus belle de ses réalisations, pour moi, est de nature politique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un homme qui montre qu'il est possible de changer les choses et qu'il est possible de changer le monde. Oui. Et qu'il faut pour ça rassembler un certain nombre de traits et en particulier...
Sa vie a le goût du possible, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le chef de l'État.
Il faut abandonner les préjugés, il faut regarder les choses avec réalisme, il faut savoir s'entourer de la science actuelle. Voilà. Et je pense que c'est important. Et c'est important politiquement, même pour le monde actuel.
Bien.
Parce que confronté aux grands défis que sont ceux de l'écologie, du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, eh bien, ce sont des qualités dont nous aurions besoin.
Bonaparte aurait peut-être été un écolo convaincu aujourd'hui. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accompagné ce soir ce débat sur la figure de Napoléon. Merci infiniment, Philippe Torreton. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés également par téléphone.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, dans un instant, le rappel de l'info. Et puis, Émilie Mazoyer, qui n'est peut-être pas bonapartiste.
Si, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Et terminer sur l'écologie, c'est intéressant, Julien.
Voilà, la boucle est bouclée, comme on dit.
Parce que mon invité de ce soir, c'est Julien Doré et son dernier album extrêmement écolo, s'appelle Aimé.
Mais toi, t'auras ton style, comme Kylian Mbappé.
Un album dans lequel on parle de respect des animaux ou encore de réchauffement climatique.
J'ai Charles Bonaparte à ma droite ici qui dit formidable Julien Doré. Voilà. Vous voyez que la boucle est bouclée.
Exactement, il sera avec nous donc pour une session acoustique et une interview.
Merci Émilie, on te retrouve dans quelques instants.
Julien.
Le rappel de l'info Romano qui est dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À demain 18h.